L'un des textes les plus célèbres de l'histoire humaine parle d'un homme innocent, torturé, sans pitié, juste à cause d'un pari cosmique.
C'est vrai que c'est la vision traditionnelle.
Oui, du moins, c'est ce qu'on a toujours entendu dire, non? L'image classique, c'est celle d'un pauvre individu sur le banc des accusés.
Soumis à un test presque sadique pour prouver sa foi, exactement.
Pendant que le ciel entier regarde avec du pop-corn, en fait. Mais et si cette lecture était totalement à côté de la plaque?
Et c'est bien possible qu'elle le soit.
Parce que si le livre de Job n'était pas du tout le procès d'un homme, mais plutôt le procès de Dieu lui-même.
C'est une perspective fascinante.
Bon, notre plongée d'aujourd'hui s'attaque à ce texte vertigineux. On va se baser sur les notes de la 10e session du chercheur, le docteur John Walton. Une session qui s'intitule « Fils de Dieu et Satan ».
Des notes très riches, d'ailleurs.
Absolument. L'objectif, c'est vraiment de déconstruire cette idée reçue massive. La structure même de ce récit ancien ne juge pas les péchés d'un humain. Elle place carrément les politiques divines sous le feu des projecteurs.
Et pour comprendre ça, le docteur Walton nous demande un changement de paradigme fondamental dans notre façon de lire la littérature du Proche-Orient ancien.
C'est-à-dire, on lit mal le texte.
On a tendance à aborder ce genre de texte avec une grille de lecture hyper moralisatrice. On veut chercher la faute, trouver la petite leçon de vie à la fin.
Genre la morale de l'histoire.
Tout à fait. Or, si on regarde la mécanique narrative du tout début du livre, on voit bien que la loupe n'est pas du tout braquée sur le comportement humain. Elle est sur le système de rétribution divine.
Ah ouais, donc on commence directement dans la fameuse cour céleste.
Voilà. Et à ton sens, ce n'est pas un royaume magique avec des anges qui jouent de la harpe sur des nuages?
D'accord. C'est quoi alors?
C'est une vraie structure de gouvernance. L'image que les auteurs antiques utilisent, c'est celle d'un bon roi. Un souverain qui rassemble simplement ses fonctionnaires pour avoir des rapports sur l'état de son royaume.
Donc Dieu demande un rapport à une entité que le texte appelle l'adversaire ou le challenger, c'est ça?
C'est exactement le terme, oui. L'adversaire.
Mais Walton précise bien que ce n'est pas Dieu qui joue l'ignorant, C'est vraiment une dynamique administrative.
Absolument. Et il faut préciser un truc crucial. Dans ce contexte précis, cet adversaire n'est pas l'incarnation du mal absolu avec des cornes et une fourche.
C'est pas le diable classique qu'on imagine.
Pas du tout. C'est un rôle officiel. Le gars fait juste son boulot. Il patrouille, il observe. Et surtout, il soulève les failles du système.
Le fameux avocat du diable sans jeu de mots.
C'est un peu ça. Et c'est en regardant Job, un homme qui est décrit comme parfait, super riche et protégé de tous les côtés, que cet adversaire pose la question qui va tout faire basculer.
La fameuse question « Job sert-il Dieu pour rien ?»
Exactement. Le texte dit que Dieu a mis une espèce de haie de protection autour de lui, qu'il bénit son travail, que ses troupeaux se multiplient, et l'adversaire, il attaque directement cette protection.
Moi, j'imagine très bien la scène sous un angle beaucoup plus moderne, très monde de l'entreprise, vous voyez?
Ah oui, allez-y.
Genre, Dieu serait le PDG d'une énorme multinationale. Et l'adversaire, c'est l'auditeur interne, le type impitoyable que tout le monde redoute de croiser à la machine à café.
C'est une excellente analogie, oui.
Cet auditeur, il entre dans le bureau du PDG, il jette un dossier sur la table, il dit un truc du genre « Votre employé de l'année, là, Job, il n'a aucune loyauté envers vos valeurs. »
C'est exactement l'argument.
S'il est loyal, c'est juste parce que vous lui donnez une voiture de fonction blindée, des primes gigantesques et une immunité totale. Coupez le robinet, retirez les avantages et on verra s'il est toujours si vertueux.
Et dans cette entreprise cosmique, si on garde votre métaphore, cet auditeur attaque ce que les historiens appellent la grande symbiose.
La grande symbiose, oui.
Oui, ou le principe de rétribution. Il faut comprendre que dans l'esprit du Proche-Orient ancien, la relation entre l'homme et la divinité, elle était strictement transactionnelle.
Genre, je te donne un truc, tu me donnes un truc.
Voilà. Les humains nourrissaient les dieux avec des sacrifices et en échange, les dieux offraient protection et récolte abondante. Mais l'adversaire soulève un problème philosophique dévastateur avec ce système.
Lequel?
Il dit que ça rend la justice désintéressée totalement impossible à prouver.
Ah, parce que si on est toujours récompensé...
Si l'entreprise récompense systématiquement et immédiatement chaque bonne action, la vertu, elle devient impossible à distinguer d'une simple transaction financière.
Ouais. D'un pur calcul économique, en fait.
Exactement. Est-ce que l'employé agit par vraie intégrité morale ou juste parce que c'est rentable? L'auditeur affirme que cette politique corrompt la nature même de la relation.
C'est fou. Donc pour sauver la crédibilité de son système, le PDG n'a pas vraiment le choix. Il doit accepter le défi.
Il y est obligé. Et Job devient, bien malgré lui, le témoin vedette pour la défense.
Toute l'intégrité des politiques de Dieu repose sur la façon dont Job va réagir quand on va lui arracher sa haie de protection.
C'est tout l'enjeu des premiers chapitres.
Et c'est là qu'on arrive à la prédiction de l'auditeur. Et honnêtement, c'est un des trucs qui m'a le plus fasciné dans les notes de Walton, surtout sur le plan linguistique.
Oui, le choix des mots est incroyable.
L'adversaire annonce la couleur très clairement. Si on ruine Job, il va maudire Dieu en face. Mais le texte hébreu n'utilise pas du tout le mot maudire.
Non, il utilise le verbe barar.
Un mot qui veut fondamentalement dire bénir.
C'est ça. Et la mécanique derrière ce choix de mots en dit long sur la culture de l'époque. En fait, c'est un euphémisme de scribe.
Un euphémisme ? Pourquoi ?
Les scribes hébreux antiques, ceux qui copiaient ces textes, avaient une réticence immense, un vrai tabou, à écrire le mot « maudire », juste à côté du nom de Dieu.
Ah, ça leur paraissait sacrilège.
Visuellement et phonétiquement, oui, c'était trop choquant. Donc, pour contourner ce blocage, ils utilisaient « barak », un mot positif, pour décrire une action très négative.
Donc, l'adversaire dit littéralement « touche à ses biens et il te bénira en face ».
Voilà. Mais le contexte de défi est tellement fort que tout le monde, même le lecteur antique, comprend qu'il faut comprendre l'inverse. C'est l'environnement de la phrase qui crée le sens.
C'est le principe même du sarcasme, non ?
On peut le voir comme ça, oui.
Transposé dans de la littérature sacrée. C'est comme si, je sais pas, si ma plomberie explose au milieu de la nuit et inonde tout mon salon. Et que je dis « Oh, quel bonheur absolu !»
Exactement. L'ironie fait tout le travail. Personne ne prend votre joie au premier degré.
Le mot positif sert de bouclier pour désigner une catastrophe. Mais ici, ce sarcasme linguistique, il prépare le terrain pour une tension dingue.
Une tension narrative énorme, oui.
Parce que la question, c'est comment la réalité du test va s'aligner avec ce mot « barak ».
Et l'exécution du test, elle répond avec une brutalité implacable. L'adversaire a le feu vert, avec juste une limite. Ne pas toucher au corps de Job, au début.
Et là, c'est pas juste une mauvaise journée. C'est l'oblitération chirurgicale du monde de Job.
Une destruction totale qui vient de toutes les directions. Des ennemis humains qui volent ses troupeaux. Une catastrophe que le texte appelle le feu de Dieu qui tombe du ciel.
Et la tragédie finale, le désastre naturel. Le vent qui fait s'effondrer la maison sur tous ses enfants.
Ils sont tués sur le coup, oui.
Walton insiste vraiment sur la nature littéraire de cette séquence. La vitesse et l'ampleur de la destruction sont indispensables.
Parce qu'il faut isoler la variable, n'est-ce pas ?
C'est tout à fait ça.
Si Job perdait sa fortune sur 10 ans à cause d'une mauvaise gestion, on pourrait blâmer l'économie. La question divine serait diluée dans des facteurs humains.
Le nettoyage absolu, en quelques minutes, ça retire toute possibilité de rationaliser.
La haie est pulvérisée d'un coup. C'est le retrait total de la protection divine, sans avertissement. Et du coup, comment réagit notre employé modèle face à ça ? Le texte décrit une réaction qui déjoue complètement le cynisme de l'adversaire. Job fait les rituels de deuil normaux, il déchire son vêtement, se rase la tête.
Ce qui est normal pour sa culture.
Oui, mais l'acte fondamental arrive juste après. Il se prosterne face contre terre.
Et ça, c'est super important théologiquement. C'est ça, hein ?
Énormément. Job ne blâme pas des démons mineurs ou le mauvais sort. En se prosternant, il reconnaît formellement que l'autorité derrière tout ça, c'est Dieu.
Il accepte que ça vient de la direction suprême.
Exactement. Et c'est là qu'il prononce ces mots très célèbres. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Yahweh a donné. Yahweh a repris. Que le nom de Yahweh soit béni. »
Que le nom soit béni, et voilà le retour du verbe hébreu « barak ».
Eh oui, « barak ».
Le mot utilisé à la fin de cette phrase vertigineuse, c'est « barak ». Mais cette fois, il n'y a aucun euphémisme, aucun sarcasme.
Aucun. L'adversaire avait prédit que Job allait « barak Dieu », en voulant dire le « maudire ».
Et Job finit par le « barak », mais dans le sens littéral et pur du terme.
L'adversaire s'est trompé sur toute la ligne, tout en ayant linguistiquement raison. C'est d'une beauté ironique spectaculaire.
Et il y a un autre détail crucial soulevé par les notes, sur l'utilisation du nom Yahweh, non.
Ah oui, c'est une anomalie absolue dans le texte. Job dit « Yahweh a donné, Yahweh a repris ».
Pourquoi c'est une anomalie ?
Parce que Yahweh, c'est le nom de l'Alliance. C'est le nom de l'intimité relationnelle avec Dieu. Or, dans presque tout le reste du livre, pendant ces grands débats philosophiques, Job n'utilisera jamais ce nom.
Il utilise quoi à la place ?
Il va employer « elle », Elohim ou El Shaddai, des termes très majestueux, mais qui évoquent une divinité distante, un créateur froid, pas un partenaire intime.
Donc, utiliser Yahweh à ce moment précis de dépossession absolue, ça montre qu'il s'accroche à l'intimité divine juste avant que tout ne s'écroule.
Juste avant que la douleur et le silence ne l'éloignent, exactement.
Mais attendez, prenons un peu de recul. Perdre sa fortune, son statut, tous ses enfants en une après-midi et dire « Béni soit le Seigneur », c'est pas un peu invraisemblable, psychologiquement ?
C'est une excellente question. Et Walton l'intègre très bien dans son analyse.
Parce que franchement, on frise le comportement de robot ou le déni de traumatisme total. C'est réaliste d'être aussi parfait théologiquement face à l'horreur.
En fait, Walton fait remarquer que cette réaction, bien qu'admirable, elle ne représente pas l'état d'esprit de Job pour le reste du livre. Il y a une vraie réalité psychologique ici.
Le choc, j'imagine.
Le choc initial agit comme un anesthésiant émotionnel énorme. Dans les premières heures d'une crise, on s'agrippe instinctivement à ses croyances les plus profondes.
On donne la bonne réponse parce que c'est la seule bouée de sauvetage qu'on a.
Voilà, le sprint de la crise permet cette démonstration de force. Mais le livre de Job, c'est pas un sprint. C'est un marathon de la souffrance.
C'est quand les amis arrivent et commencent à philosopher et que les jours s'étirent, que ça se complique.
C'est là que la véritable détérioration commence. La posture parfaite de Job va se fissurer sous le poids de la durée et du silence de Dieu. Il ne tient pas Dieu pour coupable d'une erreur.
Pour l'instant, en tout cas.
Pour l'instant, oui.
Donc le premier test est passé. L'audit interne valide la politique. Mais la vraie complexité du récit, ce qui va driver tout le reste du livre, c'est un manque d'information, non?
Ce qu'on appelle l'information cachée, oui. Et ça change complètement notre lecture.
Job, c'est l'employé dont le département est fermé, mais il ne reçoit jamais les minutes de la réunion du conseil d'administration.
Il ne sera jamais. L'architecture du livre exige cette ignorance. Ni Job, ni ses amis qui vont bientôt se poser en juge ne soupçonneront jamais la scène de la cour céleste.
Même à la fin, quand Dieu lui parle dans la tempête.
Même à la fin, aucune explication ne sera donnée. Dieu ne mentionne jamais l'adversaire, il ne s'excuse pas, il ne révèle rien des coulisses.
Mais c'est dingue! Si cette scène d'ouverture ne sert à rien pour les personnages, pourquoi l'auteur l'a écrite?
Elle est conçue exclusivement pour nous, les lecteurs. Elle établit un fait narratif inébranlable, l'innocence totale de Job.
Et ça, c'est une bombe nucléaire sur la théologie de l'époque.
Complètement. Parce que le réflexe par défaut à l'époque...
Et encore aujourd'hui, soyons honnêtes.
Oui, tout à fait. C'est la recherche de la faute. Face à une souffrance inexpliquée, l'esprit humain panique. Il a besoin d'une raison pour se rassurer.
On se dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a dû faire un truc mal pour attirer tout ce chaos.
Et les amis de Job vont agir exactement comme un département des ressources humaines qui cherche la petite faute pour justifier le licenciement.
Ils vont passer des dizaines de chapitres à fouiller sa vie pour trouver le péché caché.
Et sauf que le lecteur, grâce à cette information cachée, les regarde débattre en sachant pertinemment qu'ils ont tout faux. Job n'est pas puni.
Ce n'est pas lui qui est jugé. C'est l'équation mathématique morale qui est en train de se faire détruire en direct.
C'est exactement l'expression. La culture de l'époque croyait dur comme fer que... Action juste égale récompense et transgression égale punition.
Une formule algorithmique.
Et le prologue démolit ça. Il montre que la souffrance peut exister en dehors de tout cadre punitif. Mais Walton souligne aussi un point très lourd. Dieu assume l'entière responsabilité du test.
Ah oui, c'est pas l'adversaire qui force la main de Dieu.
Non, c'est Dieu qui initie la conversation, c'est lui qui autorise le retrait de la haie. L'adversaire, c'est juste un catalyseur narratif.
Ça remet tout en perspective. On nous arrache vraiment notre petite calculatrice morale des mains.
C'est très déstabilisant.
Mais je dois admettre un truc. Cette histoire d'information volontairement cachée, ça me pose un gros problème.
Lequel ?
Si Dieu initie ce test de politique interne, s'il détruit la vie d'un innocent juste pour prouver un concept et qu'il refuse de lui donner la moindre explication... C'est pas la définition même de la cruauté?
C'est une question très légitime et la dureté de la réalité est indéniable. Mais le texte, d'un point de vue philosophique, nécessite ce silence.
Comment ça?
L'absence d'explication n'est pas un caprice sadique. Si Dieu apparaissait à la fin pour dire « Désolé Job, c'était juste pour clouer le bec d'un auditeur céleste »
Mais ça ruinerait tout en fait.
La portée du livre s'effondrerait, oui. La souffrance serait réduite à un petit pari de coulisses. Retirer l'explication, ça force le lecteur et Job à repenser la nature de l'univers.
Ça pose la question de savoir si on peut faire confiance à la justice divine sans avoir besoin de notre petite clarté transactionnelle.
Exactement. C'est l'exigence ultime de la justice désintéressée appliquée à notre propre intellect face au mystère.
Si on rassemble toutes les pièces de cette analyse, le portrait qui en ressort est tellement plus riche qu'une simple fable sur la patience.
Incomparablement plus riche, oui.
On est parti de l'idée d'un tribunal classique pour découvrir que l'accusé, c'est pas celui qu'on pensait. C'est le procès de la grande équation morale.
La mise à l'épreuve des politiques du ciel.
On a vu la mécanique de ce fameux mot, Barak, où un euphémisme devient une ironie spectaculaire et la prédiction cynique qui se fracasse sur l'intégrité même brève d'un homme anéanti.
Le livre établit l'innocence inconditionnelle de Job. Et du coup, ça détruit notre réflexe de toujours chercher une faute derrière une tragédie.
Et cette conclusion, elle est hyper libératrice, non ?
mais aussi très déstabilisante. Les deux à la fois. Libératrice, parce qu'elle déconnecte la souffrance de la culpabilité. L'univers n'est pas un distributeur automatique moral.
Le malheur ne veut pas dire qu'on a mis la mauvaise pièce éthique dans la machine.
Exactement. Ça demande une vraie évolution de notre empathie. On ne peut plus se contenter de chercher ce que les gens ont fait de mal quand ils souffrent.
Mais la contrepartie terrifiante, c'est qu'on doit abandonner l'illusion du contrôle. On ne peut pas maîtriser notre destin avec une moralité parfaite.
C'est le prix à payer pour cette compréhension, oui.
Abandonner le contrôle, ça ramène directement à ce huis clos divin du premier chapitre. Aux minutes de la réunion que Job n'a jamais lue. Il a perdu son monde, débattu jusqu'à l'épuisement, sans jamais avoir de pourquoi.
Jamais de réponse finale.
Et c'est là-dessus qu'on va clore notre réflexion, parce que c'est assez vertigineux. Si, selon ce texte antique, un conseil céleste a pu décider du destin d'un homme qui ignorait toutes ses coulisses, quelle dynamique silencieuse, quelles architectures invisibles pourraient bien opérer au-dessus des chaos inexpliqués de notre propre réalité aujourd'hui?
Des bouleversements pour lesquels on n'aura peut-être jamais d'équation apaisante.
Jamais de réponse pour clôturer le dossier. Alors, l'ultime sagesse, est-ce que c'est d'exiger l'accès au dossier du juge ou d'apprendre à exister pleinement dans la salle d'attente d'un tribunal dont les portes resteront à jamais fermées? À méditer pour notre public.